Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Au sommaire de ce Mondoscopie cette semaine, les déserts. Déserts qui pourraient devenir des trésors pour la planète. C'est ce qu'estime l'ONU. Les Nations Unies lancent un cri d'alarme. Les déserts seraient menacés aujourd'hui. En Europe, direction la Pologne, à la rencontre d'une réalité oubliée, celle des mines et du charbon, car si la France a abandonné l'activité minière, la Pologne, elle, compte encore des centaines de milliers de mineurs en grève cette semaine. Et puis nous partirons en Asie où nous ferons le point sur l'un des conflits politiques les plus sulfureux du continent, la question taïwanaise. Washington et Bruxelles ne veulent pas froisser le géant chinois. Malgré des velléités de plus en plus pressantes, l'ancienne île de Formose est aux antipodes de l'indépendance. Les déserts constituent des trésors de ressources pour la planète, mais ils sont menacés. C'est le double constat de l'ONU qui a publié cette semaine un rapport surprenant et inquiétant à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Un quart des terres émergées de la planète sont considérées comme désertiques, des terres qui pourraient alimenter nos besoins énergétiques et dont la flore possède des vertus encore inexploitées selon l'ONU, mais qui pourraient bientôt disparaître à cause de la pollution. Un constat assez fumeux pour Jean Chesneau, président honoraire de Greenpeace. Au contraire, lui se méfie de l'avancée du désert, une terre aride, tant sur le plan écologique que philosophique. Écoutez-le.
Les déserts, dans leur principe même, c'est des zones arides où se conjuguent les effets de la chaleur, les effets de l'aridité, les effets de la sécheresse, même s'il existe aussi des déserts glacés, notamment l'Antarctique. Mais on pense surtout aux déserts d'aridité sec et chaud. Et ces déserts s'étendent selon des équilibres climatiques. N'oublions pas que le mot de climat signifie une bande, en grec, une ceinture. Et il y a une bande désertique au nord de l'équateur, dans la zone tropicale. Et il y a aussi une bande désertique au sud de l'équateur, que ce soit en Afrique australe ou en Australie ou dans certaines régions très arides d'Amérique du Sud. Tous ces déserts n'ont pas grand attrait pour les êtres humains. Ils ne sont pas propices ni à l'élevage ni à l'agriculture. Ils contiennent certainement des réserves minérales, que ce soit le sous-sol ou que ce soit les minerais de surface ou les roches diverses. Mais c'est vrai que le mot de désert, au sens presque philosophique du terme, évoque une idée de pauvreté, on peut dire une idée de déréliction, d'abandon. Un désert est inhospitalier. Et ça joue, pour les déserts de l'hémisphère sud que je viens d'énumérer, ça joue bien sûr pour le Sahara, pour le désert de Gobi, pour les déserts du sud des États-Unis, pour les déserts du Moyen-Orient.
Mais est-ce que ces déserts ont un rôle à jouer d'un point de vue écologique pour la planète, toutefois ?
Personnellement, je pense que ces déserts sont une donnée objective. Ils sont l'expression géographique, la mise en place à la surface de notre globe d'un certain nombre d'équilibres climatiques entre les zones tropicales, les zones équatoriales, humides et chaudes, et d'autre part les zones tempérées puis froides. Et ces deux zones, ces deux bandes désertiques, celle du nord et celle du sud, sont chacune pour leur compte, représente je ne veux pas dire le mot de no man's land qui me paraît inapproprié, mais représente quand même une sorte de point d'équilibre, d'espace d'équilibre qui sont le reflet de la réalité même de notre habitat sphérique. Et les effets climatiques sur lesquels je n'ai pas à m'étendre, qui sont des effets physiques, ont amené à la création, à la mise en place plutôt que création de ces déserts.
Alors est-ce que ces zones qui sont inhospitalières, comme vous le disiez tout à l'heure, ont tendance à s'agrandir ces derniers temps ?
Alors ça c'est certain. Il y a le problème de la désertification. Je commence par une anecdote. Il y a 3 ans, j'ai été amené à participer à une mission de coopération entre une organisation française d'éducation populaire qui s'appelle la Ligue de l'Enseignement et des groupes d'instituteurs du Sénégal. Et nous sommes restés une semaine dans le nord Sénégal, à la frontière du désert. J'étais à l'entrée d'une école. Et mon regard suivait un arbre qui était en train de se dessécher, de devenir un arbre squelettique, qui n'avait plus de fleurs, avait à peine quelques feuilles. Et une mère de famille suivait mon regard. Et elle me dit, « Ah, monsieur, quand j'étais enfant, cet arbre était couvert de fleurs. Cet arbre était couvert de fleurs. » Et ensuite, nous avions traversé la brousse, et l'instituteur qui guidait nos trois voitures m'avait dit, « Voyez, quand moi aussi j'étais enfant, il y avait là des animaux, il y avait là des fleurs, il y avait là des oiseaux. Aujourd'hui, il n'y a que quelques arbres malingres qui essayent de survivre au milieu du sable. » La désertification, c'est ça. Et c'est un fait bien répertorié, cette désertification non seulement du nord Sénégal, du Sénégal intérieur, mais de l'ensemble de la zone qu'on appelle subsaharienne, appelée aussi le Sahel. Cette avancée du désert est un phénomène accablant pour la zone marginale de Chine du Nord, qui était une zone où l'agriculture ne survivait qu'avec difficulté. Et depuis 50 ans, eh bien, en Chine du Nord, le désert de Gobi progresse et la zone cultivable et arable se rétrécit d'année en année.
Qui produit également donc, une désertification humaine ou en tout cas anthropologique.
Bien sûr, parce que la vie humaine n'est plus possible qu'au prix d'efforts techniques très lourds. Les nomades ne subsistent que grâce à leur endurance et les groupements sédentaires ont besoin d'eau, c'est-à-dire de puits de plus en plus profonds, d'acheminements, de réservoirs. L'activité humaine, quelle qu'elle soit, agricole ou technologique ou d'observation météorologique ou de quelles que soient les raisons pour lesquelles des humains doivent s'installer dans les zones désertiques, ces conditions de vie deviennent de plus en plus précaires.
Et c'est ça le grand problème de l'environnement aujourd'hui sur la planète ?
Je dirais pas que c'est la désertification en la séparant de l'ensemble de ce que j'ai appelé tout à l'heure la crise écologique, dont la dégradation du climat est un élément important. Il n'y a pas que ça. Par exemple, l'appauvrissement de ce qu'on appelle la ressource halieutique, c'est-à-dire les masses poissonneuses des grands océans, ça n'a pas grand-chose à faire ni avec le désert ni avec le climat. C'est dû à l'activité irresponsable des humains qui, à la fois, utilisent de façon excessive ces ressources de poissons et en même temps polluent les océans pour rendre la vie naturelle à bord des océans de plus en plus difficile pour toutes les espèces vivantes, tant végétales que animales, dont c'est l'habitat traditionnel. Donc la crise écologique ne se ramène pas au climat. J'ai pris cet exemple des océans et de l'habitat poissonnier. Mais la crise climatique est un élément très important de la crise écologique, que ce soit par l'instabilité des saisons, que ce soit par les ouragans, par les pluies diluviennes, par les sécheresses, par les canicules. C'est un grand problème que je n'hésite pas à appeler un problème philosophique, c'est-à-dire le problème de l'équilibre entre des facteurs que j'appelle naturels, dû au mouvement des océans, au mouvement des masses nuageuses, au mouvement de la haute atmosphère. Donc il y a des cycles climatiques aléatoires qu'on analyse mal, mais qui existent par eux-mêmes et cela depuis des millénaires. Mais il y a aussi des phénomènes de dégradation du climat qui ne sont plus dus au mouvement naturel de la haute atmosphère, des taches du soleil, toute une série de facteurs qu'on a essayé d'analyser, mais des crises climatiques qui sont dues aux effets irresponsables, je pèse mon mot, ce terme, de l'activité humaine. Et ici, on emploie le mot de crise anthropique, A-N-T-H-R-O-P, pas E-N-T-R, qui est la dégradation de l'énergie, l'entropie, c'est autre chose, mais des phénomènes dus à l'activité humaine immodérée. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de dégradation de l'habitat poissonnier. Ça, c'est indiscutablement un phénomène anthropique. De la même façon, l'usage immodéré des véhicules émettant des gaz nocifs pour la haute atmosphère, ce qu'on appelle communément la couche d'ozone. Ces gaz émis par nos frigidaires, nos voitures, surtout nos camions, etc., ont un effet de dégradation de la haute atmosphère qui nous rend beaucoup plus fragiles, sensibles à des effets négatifs des rayonnements solaires. Et c'est le fameux protocole de Kyoto que les Nations Unies ont fini par accepter après beaucoup d'atermoiements, encore que les États-Unis ne l'ont pas encore signé. Et ce protocole de Kyoto visait essentiellement ce qu'on appelle, entre guillemets, les gaz à effet de serre, et qui ont comme effet d'attaquer, au sens de vinaigre qui attaque du calcaire, d'attaquer la couche d'ozone. Et ce n'est que très lentement que les dégâts se sont manifestés, et nous les commençons à les payer maintenant, même si le protocole de Kyoto était mis en valeur, en vigueur immédiatement, même s'il était renforcé, car en fait il ne porte que sur une réduction de 5%, ce qui est dérisoire. Mais même s'il y avait une réduction de 50% des gaz à effet de serre, l'effet de rééquilibrage de la haute atmosphère, lui aussi, nous coûterait des dizaines d'années. N'oublions pas que nous allons assister à la disparition de réalités géographiques extrêmement prestigieuses, à savoir les grands glaciers permanents. Le Kilimandjaro, la plus grande montagne d'Afrique, n'a déjà plus 1 mètre carré de glacier. Le Tibet va perdre ses glaciers. Au Mont Blanc, on mesure déjà la régression des glaciers. L'immense masse glaciaire qui couvre le continent antarctique est en train de fondre. Et on ne sait même pas s'ils se reconstitueront jamais. Je suis obligé de terminer sur cette note un petit peu pessimiste, mais je crois que rien n'est pire que de ne pas regarder la réalité en face.
Voilà, c'était les explications de Jean Chesneau de Greenpeace. Ils étaient 40 000 cette semaine à être en grève, 40 000 mineurs à demander plus d'argent, une réalité que l'on a bien connue en Europe occidentale, en France, en Allemagne ou encore en Belgique, mais c'était il y a des décennies. En Pologne, les mineurs composent encore une frange importante de la population ouvrière, une réalité sociale avec ses problématiques, des problématiques de notre temps. Écoutez le professeur Jacek Wutz, sociologue polonais.
Le mineur en Pologne, c'est un groupe vraiment très spécial. C'est un groupe qui, avant le changement de système, jouait un rôle primordial dans la classe ouvrière polonaise. Après, on a beaucoup changé dans l'économie polonaise, mais le charbon est resté la source principale de l'énergie en Pologne tout entière. Ce qui fait que même si on a maintenant à peu près 50% de moins de mineurs que dans les années 80, ce groupe reste toujours un groupe très important pour l'économie polonaise. Et les dirigeants syndicaux des mineurs en sont entièrement conscient. Ce qui fait que les mineurs, même s'ils sont maintenant en tant que groupe réduit, ils jouent un rôle très très important dans le mouvement syndical en Pologne. À partir des débuts des années 90, donc déjà la Pologne démocratique, le mineur en quelquefois balançait vraiment la situation politique en Pologne. Et ils en sont conscients, ils savent qu'ils peuvent vraiment exiger quelque chose. En quoi consiste la grève d'aujourd'hui? Il s'est fait que l'année passée, et à cause des changements des prix des matières premières, et les mines ont eu vraiment des bénéfices considérables. Alors, le mineur maintenant demande de participer dans division de ce bénéfice et il réclame tout simplement les dividendes qui sont élevés, et ça vous dira pas grand-chose parce que c'est un zloty polonais, mais entre 1 000 et 1 800 zloty par personne. Le gouvernement qui est actionnaire principal, parce que ce sont les sociétés et où l'État a presque 90% des propriétés, des actions, et le gouvernement est d'accord d'à peu près 60% de ce qu'il demande. Ils ont commencé le pourparler, et ces pourparlers avec le gouvernement ont abouti absolument à rien. Donc, la grève d'avertissement pendant 2 heures qui annonce une action des manifestations de mineurs exactement les 15 juin à Varsovie.
Oui, parce que...
Et on verra maintenant si le gouvernement va céder ou non.
Parce que vu de France, une grève de mineurs paraît un peu désuet, puisqu'on n'a plus de mineurs depuis quelques années
oui,
dans notre pays.
Oui, vous n'avez plus de mineurs, vous avez l'énergie basée sur le pétrole, sur le gaz et sur l'énergie atomique, alors que pratiquement 90% des centrales électriques en Pologne marchent au charbon. Qui fait que ces mineurs, ils sont absolument conscients qu'eux, ils sont capables d'arrêter le pays.
Alors, ceci dit, ce sont des mineurs qui se mettent au goût du jour, au goût de la mondialisation et du capitalisme et du bénéfice.
Tout à fait. Et c'est comparable à peu près à cette conscience syndicale des cheminots en France, qui, eux aussi, ils sont conscients que la grève des chemins de fer en France peut renverser le gouvernement. C'est le même rôle qui jouent les mineurs en Pologne. Ils en sont conscients absolument qu'ils sont capables de renverser le gouvernement.
Combien sont-ils aujourd'hui en Pologne?
Ils sont à peu près 200 000. Ils ne sont pas très très nombreux, mais ils sont bien organisés et ils ont des dirigeants syndicaux très expérimentés qui se trouvent souvent, et ça c'est le cas d'aujourd'hui, qui se trouvent devant les ministres qui ne sont pas expérimentés. Alors, on a quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux électeurs français, mais la situation où ces dirigeants syndicaux ont beaucoup plus d'arguments et des facultés de débattre le problème que les représentants du gouvernement. Parce que le vice-ministre de l'économie, qui se trouve en face des dirigeants syndicaux, lui, il exerce sa fonction depuis quelques mois et il n'en sait pas grand-chose. Alors qu'eux, ils savent beaucoup plus.
Ces grèves de mineurs, ou en tout cas d'ouvriers, rappellent un peu ces grandes grèves des années 80 avec le syndicat Solidarité. Est-ce qu'il y a des relents? Comment vous analysez ça? Parce que de loin, comme ça, on a l'impression...
Non, je crois qu'il faut pas... Non, on n'a pas le droit de comparer ces grandes grèves des années 80 avec ça, ce qui se passe maintenant. Non. Ça, il faut distinguer les deux choses. Les grandes grèves des débuts des années 80, c'était des grèves qui avaient pour but... non seulement les changements de la situation économique, mais aussi certains mécontentements des systèmes politiques. Alors maintenant, la politique n'est pas encore pris en compte dans les revendications. Non, il n'y a pas de revendications politiques. Il y a strictement les revendications économiques.
Ça, c'est clair. Et quelles sont les conditions de travail aujourd'hui des mineurs en Pologne? À quoi ressemble une mine en Pologne?
Ça dépend des mines, mais il y a des mines où les conditions de travail sont pénibles. Ça, c'est vrai parce que, de fait, que pendant les dernières années, c'est pour la première fois l'année passée qu'il y a vraiment les vrais bénéfices dans les mines. Et souvent, il y a eu des déficits. Les mines travaillaient presque au zéro. Et ce qui fait qu'on n'investissait pas assez dans les mines. Et les conditions de travail sont souvent pénibles. Alors que les mineurs ne sont pas très, très bien payés. Ils ne sont pas payés comme les autres ouvriers. Ils gagnent un peu plus. Mais vu les conditions de travail, ils ne sont pas bien payés. Finalement, et ce problème se présente uniquement en Silésie, que c'est très centré et très régionalisé finalement. C'est la répercussion et la répercussion au niveau national, mais le grève sont uniquement en Silésie. Parce qu'il y a le bassin minier uniquement en Silésie. Mais l'énergie produite en Pologne, surtout l'électricité, dépend 100% de la production des mines silésiennes.
L'analyse du professeur Jacek Wutz, professeur de politique et de sociologie à Varsovie. La question est récurrente depuis des décennies. Les autorités taïwanaises espèrent rompre avec la tutelle chinoise. Elles le font savoir de plus en plus souvent ces derniers mois. Mais voilà, le référendum espéré n'est pas pour aujourd'hui, à moins de créer une situation explosive avec Pékin. Puisque les États-Unis, traditionnellement alliés à Taïwan, ont décidé de prendre leur distance avec le président taïwanais, Même comportement du côté de Bruxelles. L'Union européenne ne veut pas froisser Pékin. Du coup, le statu quo sur la question risque de perdurer. Deux événements récents corroborent cette thèse. Écoutez l'analyse de Frédéric Moser, spécialiste de politique internationale à Bruxelles.
La réaction internationale par rapport à la dissolution à Taïwan du Conseil pour la réunification nationale et par ailleurs la décision des États-Unis d'interdire l'avion du président taïwanais Chen Shui-bian d'atterrir à Washington. Washington qui proposait comme solution de rechange au président taïwanais d'atterrir à Anchorage en Alaska. Alors pour moi, ces deux nouvelles, les réactions internationales qu'ont provoqué la dissolution du Conseil pour la réunification nationale à Taïwan, s'inscrit en fait dans la continuité d'une politique, de la politique américaine, de la politique européenne et la politique chinoise, à savoir le respect du statu quo. Toutes ces chancelleries ne souhaitent qu'une chose, c'est le maintien de la situation actuelle, à savoir le refus de l'indépendance de Taïwan et, en ce qui concerne les États-Unis, bien sûr, la garantie de la sécurité de l'île.
Quel est l'intérêt de conserver ce statu quo ?
L'intérêt du statu quo, à mon avis, ne se justifie que par rapport à la Chine, à savoir que je ne pense pas que l'on puisse considérer la Chine comme un pays impérialiste ou désireux de conquérir de nouveaux territoires. Militairement parlant, j'entends. Mais la Chine, par ailleurs, s'est fait un discours extrêmement clair par rapport à toute velléité d'indépendance de Taïwan, à savoir que la Chine a clairement déclaré qu'elle ne supporterait pas, qu'elle n'autoriserait à aucun prix toute indépendance de l'île. Et elle l'a encore rappelé, d'ailleurs, dans un texte récent qui est la fameuse loi anti-sécession votée par le Parlement chinois le 14 mars 2005, dans laquelle elle stipule dans son article 8 que la Chine utiliserait tous les moyens en sa possession, y compris, bien sûr, les moyens militaires, pour interdire l'indépendance de l'île. Donc je pense que les réactions de Bruxelles et de Washington ne se justifient que par rapport à cette espèce d'épée de Damoclès chinoise, et qui est une certitude, selon moi. C'est-à-dire que la Chine provoque beaucoup d'incertitudes, notamment sur les marchés internationaux, etc. Mais il y a une certitude, selon moi, c'est que la Chine interviendra militairement si Taïwan déclare son indépendance formellement. Il y a une telle capillarité entre les deux économies. Hein. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de Taïwanais, d'hommes d'affaires, de businessmen, comme ils disent, qui travaillent en Chine continentale, et les échanges sont assez fructueux. En revanche, une indépendance formelle de l'île ne serait absolument pas acceptée à Pékin. Et donc je crois que pour éviter une augmentation de la tension et donc l'intervention potentielle de l'armée chinoise contre Taïwan et par ricochet une intervention militaire de soutien américaine, voire japonaise dans la région, je crois que toutes les chancelleries cherchent à garder le statu quo. Et toute la question de savoir, puisque depuis 2 ans environ, le président taïwanais Chen Shui-bian monte un petit peu le son de sa voix et parle de plus en plus effectivement de possibilités d'indépendance. Le terme même est cité de plus en plus souvent, bien que selon moi ça ne s'appuie sur pas grand-chose, puisque les derniers sondages réalisés à Taïwan même montrent que la population a dans une large majorité tout à fait opposée à l'indépendance. Et probablement aussi parce que la population taïwanaise est consciente des risques que cette politique aventureuse générerait par rapport à une réaction militaire de Pékin. Alors, est-ce que la présidence a les moyens d'imposer ça à la population, puisque Taïwan est une démocratie, donc il y a un parlement, tout changement de la constitution devrait être accepté par le parlement, par la population, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. De nouveau, je ne pense pas qu'il a les moyens politiques d'imposer cette solution.
Frédéric Moser, spécialiste de politique internationale, il est chercheur à l'EFI à Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce Mondoscopie, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur le www.radiovaticana.org. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Mercredi prochain, vous retrouverez Bernard de Cotigny.